Bien, bonjour à toutes et à tous. On va commencer pour la présentation de ce livre intitulé « Maudite » au pluriel, hein, de Jeannette Bougrabe. Je vais vous présenter, madame, en quelques mots, même si je pense que vos lectrices et lecteurs qui sont présents vous connaissent. Donc, je rappelle que vous êtes docteur en droit. Votre sujet de thèse portait sur les origines de la constitution de la 4e République. Vous avez d'ailleurs publié chez Dalloz en 2002. Vous avez été maître de conférence à Paris 1, Panthéon-Sorbonne, en droit public. Puis après, à Sciences Po Paris, entre 2007 et 2009. Présidente de l'ACCES, l'agence pour la...
Je suis rentrée au Conseil d'État.
Vous êtes rentrée au Conseil d'État, pardon. L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, de janvier 2010 à février 2011. Puis après, la HALD, vous avez succédé à Louis Schweitzer, c'est la haute autorité, c'était la haute autorité pour la lutte contre les discriminations et l'égalité. Puis le 14 novembre 2010, jusqu'au 10 mai 2012, vous avez été membre du gouvernement Fillon III, puisqu'on donne des numéros au gouvernement lorsque c'est un Premier ministre renouvelé, en tant que secrétaire d'État chargé de la jeunesse et de la vie associative. Donc vous êtes toujours maître de requête au Conseil d'État, comme on dit, vous êtes revenu au Conseil d'État. Vous êtes né, là aussi, comme on dit, sous Pompidou, dans le cœur, mais c'était la fin de Pompidou en 73, hein, dans le cœur de la France profonde, à Châteauroux.
Non, la France profonde, c'est la Vallée Noire, c'est le pays de Georges Sand,
qui a
en fait hébergé les amours entre Georges Sand et Frédéric Chopin, voilà. Et il m'explique que c'est le fin fond de la France.
Ah non, j'ai pas dit ça, j'avais mieux écrit, je vais vous dire, au cœur profond de la France, hein, c'est pas
non,
tout à fait pareil.
Non, c'est une très belle terre.
Hein. Donc, chef-lieu du département de l'Indre, mais en fait, vous avez vécu dans une petite commune à côté de la périphérique, qui s'appelle Déol, on prononce Déol.
Déol, en fait, c'était l'ancienne base américaine, voilà. Qui était, que vous voyez peut-être quand vous descendez, qui est à côté de l'escale, vous savez, ce fameux relais routier où Jacques Chirac ou tous ceux qui allaient se présenter en Corrèze s'arrêtaient.
Voilà. Et dans Déol, c'est très intéressant parce que ça a été longtemps une ville communiste, un fief communiste, et c'était une ville qui abritait donc la plus grande base américaine en France, hein, jusqu'en 1960.
Jusqu'au que le général de Gaulle décide de dire voilà. Dehors.
Par rapport à
aussi, il y avait une très belle abbaye du XIe siècle, dont il ne reste plus qu'une tour. Donc, si vous avez un jour l'occasion de venir, vous verrez que c'est en tout cas une ville avec un très, très beau patrimoine historique qui a été restauré.
Alors, votre livre s'articule autour de quatre chapitres. Vous faites quatre portraits de femmes. Hein, le premier, donc, premier chapitre, votre maman, Zora. Zora, ça veut dire, en arabe, c'est la fleur, la blancheur lumineuse. Quand on s'est rencontrés il y a deux jours à Paris, je vous ai dit que votre maman était née donc, le 15 août 1947, deux ans jour pour jour, après Alain Juppé, que vous connaissez bien, et maire de cette ville. Votre maman est née à Bou Hanifia, dans l'Oranais.
Exactement, connue pour ses termes romains. Parce qu'en fait, c'est une, comme vous le savez, en fait, toute l'Afrique du Nord, ou bien, eh bien, il y a
romaine,
eu...
Hein, comme Tipaza.
Exactement.
C'est moins connu que Tipaza, mais c'est aussi beau que Tipaza.
Non, parce que Tipaza, donc vous savez très bien, pour ceux qui ont lu Camus, en tout cas, qu'il jouait dans les ruines de Tipaza, Tipaza est en très très bon état, ce qui n'est pas le cas de Carthage en Tunisie. Voilà. Donc c'est un jour, peut-être que l'Algérie s'ouvrira, et vous aurez le privilège d'aller à Tipaza.
Voilà. D'accord. Le deuxième chapitre, c'est Nada, la petite yéménite qui allait être mariée à l'âge de 11 ans. Elle s'enfuit, elle dénonce cette situation sur YouTube. Elle porte plainte contre sa mère qui voulait la vendre contre une dot. La mariée contre une dot, elle peut la vendre. Le troisième, c'est Malala, la petite pakistanaise qui s'est fait tirer dessus par les talibans le 9 octobre 2012 dans un bus scolaire au nord-ouest du Pakistan parce qu'elle voulait tout simplement aller à l'école. Et elle va recevoir le prix Nobel de la paix en 2014. C'est la plus jeune à recevoir ce titre du prix Nobel de la paix, l'âge de 17 ans. Et puis vous, Jeannette, c'est la quatrième femme. Il y a un autoportrait. Alors, passons deux, votre livre...
Alors, ce n'est pas réellement un autoportrait, en fait. Oui. C'est plutôt comment ma mère, parce que ce livre est d'abord un hommage à ma mère, elle qui a vécu une violence terrible, parce que maman, elle est née à Sidi Bou Hanifia. Elle est née le 15 août 1947 et elle était l'aînée de 9 enfants vivants. Mais ma grand-mère a eu une quinzaine de grossesses, dont beaucoup d'enfants sont morts à l'âge de 1 ou 2 ans de malnutrition. Et comme c'était l'aînée de 9 enfants, elle était interdite d'école. quand elle voulait aller à l'école, sa propre mère allait la chercher, la battre pour qu'elle continue d'être une petite esclave domestique. Parce que ma grand-mère, comme elle était toujours entre deux grossesses, était souvent malade. Et ensuite, ma mère a été mariée une première fois de force en Algérie à l'âge de 13 ans. C'est un mariage qui était organisé par sa propre famille en contrepartie d'une dot, c'est-à-dire d'argent. Et elle a été mariée parce qu'on estime que quand une fille commence à être prépubère, pour éviter que le déshonneur tombe sur les familles, il vaut mieux les marier. Et ce sera toujours une bouche de moins à nourrir. Et quand on parle de mariage forcé, c'est pas, j'aime pas ce mot mariage forcé, parce qu'en fait c'est un viol organisé par les familles. Comprenez-vous ce qu'a pu ressentir ma mère? Elle est restée mariée 4 mois, à chaque soir être violée par un homme qu'elle ne connaissait pas la veille et qui avait 2 à 3 fois son âge. Et maman a réussi, en fait la guerre d'Algérie a été une opportunité pour elle de fuir tout cela. Et elle a rencontré mon père en France, au jardin public de Bourges, dans le Berry, le pays de Jacques Cœur. Et tous les deux, qui sont deux hommes blessés, ont quand même réussi quelque chose qu'aujourd'hui, des gens qui sont pourtant nés en France depuis 2 ou 3 générations ont oublié, à savoir permettre à leur fille d'être émancipée et libre. Et le chapitre sur Jeannette, c'est pas un chapitre sur moi, c'est sur un chapitre comment ma mère, en fait, a essayé au quotidien d'éduquer ses enfants, ses filles comme ses garçons, en leur apprenant le respect à l'égard des femmes, en apprenant l'égalité, en disant à ses filles chaque jour qu'on avait une chance exceptionnelle d'être née en France, parce que naître en France, c'est la possibilité pour les filles d'aller à l'école, de poursuivre des études, de trouver un emploi et surtout de ne pas se voir imposer un mariage qu'on n'aurait pas choisi. Et donc, j'explique au quotidien quelle était la vie de mes parents, qui a été une vie de sacrifice. Papa travaillait la nuit dans une usine à Schmelberger. Vous savez, c'était une usine de métallurgie. Il travaillait la nuit pour avoir les paniers de nuit. Et maman s'occupait de nous merveilleusement bien. Et en fait, j'explique notre quotidien en fait, à Châteauroux et à Déols, parce que c'est vrai qu'on habite à Déols, mais j'ai fait mes études secondaires à Châteauroux. Et ce n'était pas facile, parce qu'on faisait partie de ces travailleurs pauvres, c'est-à-dire que papa devait gagner à l'époque 6 000 francs. Et quand vous êtes 6 dans une famille, on ne gagne pas beaucoup. Et mes parents ont eu l'intelligence très rapidement de comprendre qu'il fallait partir des grands ensembles. Et mes parents ont eu cette intelligence d'acheter une toute petite maison à la campagne, qui était une sorte de cabane en bois, je ne vais pas vous dire. Ils ont compris qu'il fallait partir très vite de la cité. Et que la cité, c'était ce qui allait en réalité aliéner leurs enfants et hypothéquer les chances de succès par l'école. C'est-à-dire qu'avant tous les grands théoriciens, en tout cas des politiques urbaines, ils avaient compris qu'il fallait s'éloigner de la communauté, des groupes, pour pouvoir être totalement et faire souche en France. Et mes parents, quand je décris Jeannette, c'est pas ma vie, mon œuvre, etc., ça n'a aucun intérêt, c'est de voir comment des parents qui sont nés en Algérie, qui ne savaient pas lire et écrire, ont répété à leurs enfants chaque jour que Dieu faisait, que leur salut passera par l'école, que mes parents nous ont inculqué les valeurs de travail, que mes parents nous ont inculqué le respect de l'autorité des enseignants. Aujourd'hui, vous avez plutôt des gens qui vont bousculer les enseignants, leur dire que leurs enfants sont des génies et que ce sont des génies mal compris. Nous, si jamais on venait se plaindre du traitement d'un enseignant, on s'en prenait une. Voilà. Et que tout était ça. Et mes parents n'avaient pas d'argent, mais comme ils ne savaient pas lire et écrire, ils ne pouvaient pas nous aider pour les devoirs, ils nous payaient l'étude. Vous savez, à l'époque, parce que moi je vais avoir 42 ans, souvent dans les écoles en zone rurale, il y avait un instituteur qui restait après 4h30 et qui faisait 1 ou 2 heures d'accompagnement, en fait, d'aide aux devoirs. Aujourd'hui, le grand drame de la France, c'est qu'au lieu que l'éducation nationale fasse ce travail pour aider des familles qui n'ont pas fait d'études et qui ne peuvent plus accompagner leurs enfants dans leurs devoirs, ils laissent à des associations musulmanes, souvent un peu radicales, le soin de s'occuper de l'aide aux devoirs. Et c'est comme ça qu'on voit se développer dans certains quartiers eh bien, l'islamisme radical. Voilà.
On a même l'impression que votre papa, par exemple, dit à un moment, vous rapportez ce propos, c'est plus important que les filles réussissent à l'école parce que les garçons, ils se débrouilleront toujours, ils élèveront des chèvres
ou des moutons.
Ou ils iront à l'usine. Ou des moutons, mais les filles, il faut qu'elles, qu'elle réussisse à l'école. Alors, on va évoquer ce qui a d'ailleurs été un sujet de votre documentaire, hein, qui est, donc, le titre c'était « Interdit d'école ». Hein. Racontez-nous, quand vous êtes allé au Yémen, vous avez rencontré cette petite Nada. Elle vous saute dans les bras quand vous arrivez, quand vous la voyez. Vous êtes frappé par sa vivacité d'esprit, son regard, etc. Elle a réussi. Finalement, elle veut à tout prix aller à l'école. Hein, ça passe par... on considère que c'est la voie du salut.
Vous savez, c'est très étrange parce qu'aujourd'hui, on voit bien que comment l'école est dévalorisée, comment l'autorité au sein de l'école est dévalorisée. Et c'est étrange parce qu'il y a une forme de trahison de l'esprit des Lumières, de la Révolution française. Je ne sais pas si pour certains d'entre vous, vous avez lu le livre d'Elisabeth Badinter et de Robert Badinter sur Condorcet. Condorcet, au lendemain de la Révolution française, avait compris qu'il était essentiel et fondamental de pouvoir accéder à tout le monde, tous les enfants, en fait, à l'instruction et à une instruction plus séparée, en fait, de l'Église catholique. Et aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a 65 millions de petites filles qui sont interdites d'école chaque année. Et pour vous dire à quel point l'école, on sait bien que c'est par l'école, par le savoir, que les femmes gagnent leur émancipation. C'est la raison pour laquelle, comme des groupes terroristes islamistes comme Boko Haram, dont la traduction même de Boko Haram, c'est interdire l'école occidentale, qu'est-ce qu'il fait Boko Haram ? Il kidnappe des filles dans des écoles. Vous savez, ces 270 lycéennes dont personne ne sait ce qu'elles sont devenues. Quand on voit éventuellement Malala, parce qu'il y a eu une fatwa du Mollah Fazoula qui interdisait l'école aux filles dans toute la province du Swat. Aujourd'hui, les intégristes ont compris que pour faire triompher leurs idées les plus obscurantistes, il faut écarter de l'école les filles. Et ils sont prêts à tous les actes les plus barbares. Et vous avez par exemple au Pakistan ou encore en Afghanistan des hommes qui attaquent à l'acide des filles qui vont à l'école. Et Malala, elle avait en fait un blog qu'elle avait, en fait, une sorte de journal un peu comme la petite Anne Frank avait pendant l'occupation, où elle explique le quotidien d'une petite fille qui continue d'aller à l'école alors que les talibans menacent de mort les filles qui vont à l'école. Et elle va jusqu'au bout. C'est elle, en fait, l'incarnation des Lumières. C'est elle l'incarnation de l'esprit de Condorcet qui est prête à mourir pour avoir accès au savoir. Et quand moi, j'ai été secrétaire d'État à la jeunesse et à la vie associative, je devais m'occuper des décrocheurs. Dans le système éducatif français, vous savez, il y a en gros, puisqu'on parle beaucoup de la réforme du collège qui cristallise beaucoup aujourd'hui le débat français, il y a environ entre 150 000 et 200 000 gamins qui sortent du système scolaire sans diplôme. C'est ce qu'on appelle les décrocheurs dans le langage, dans le jargon de l'éducation nationale. Et il y a environ 200 000 jeunes qui arrivent en sixième sans maîtriser les fondamentaux, c'est-à-dire ni la lecture, ni l'écriture, ni le calcul. Ces 200 000 jeunes, vous les verrez en rupture scolaire, vous les verrez en réalité en l'impossibilité de trouver un emploi, et c'est eux qui seront tellement désespérés du système, n'iront même pas s'inscrire dans une mission locale pour trouver un emploi, et qui vont effectivement être dans une situation de précarité. Et moi, ce qui m'a choquée et surprise, c'est que vous avez des petites filles au Yémen, vous avez des petites filles au Pakistan qui sont prêtes à mourir pour aller à l'école, et en France, vous avez des gamins qui, malgré les allocations familiales versées par leurs parents, refusent d'aller à l'école.
Et vous dites que la modernité n'est pas forcément là où on pense
qu'elle est. Non, c'est-à-dire que vous avez des petites filles au Kenya qui vivent dans un ghetto qui est un coupe-gorge, qui s'appelle Kibera, qui héberge 1 million de personnes, et vous avez des petites filles de 6 ans qui marchent dans l'obscurité pendant 2 heures, qui se lavent à 5 heures du matin, dont les parents sont obligés de se sacrifier, de payer, parce qu'en fait, au Kenya, c'est le système anglo-saxon. C'est-à-dire que nous, l'école est gratuite, on n'a pas d'uniforme à payer, on n'a pas de livres à payer, au mieux, quelques fournitures, et encore, il y a la prime de rentrée qu'on verse aux familles. Là-bas, les familles n'ont même pas d'eau courante, et pourtant, c'est le ghetto de Kibera est juste à la frontière de Nairobi, qui est la nouvelle Silicon Valley de l'Afrique, hein, en termes d'innovation. Les petites filles se lèvent à 5 heures du matin, elles marchent 2 heures et parfois elles se font même violer sur le chemin de l'école, mais elles continuent d'aller à l'école. Et ce qui, moi, me paraissait étrange, c'est ce qu'a vécu maman il y a 60 ans en Algérie. Aujourd'hui, d'autres petites filles le vivent et qu'on est totalement dans une indifférence qui me semble criminelle. Mais j'ai le sentiment aujourd'hui qu'en France, c'est comme les trois petits singes, vous savez, on ne veut pas voir, on ne veut pas dire et on ne veut pas parler. Aujourd'hui, vous savez, il y a pour moi l'équivalent d'un génocide pour les chrétiens d'Orient. Avec la même indifférence, on laisse les Coptes, on laisse les Yazidis, on laisse les Druzes se faire massacrer dans des conditions tellement abominables que si je vous décrivais les conditions de leur assassinat, vous auriez la nausée et certains d'entre vous vomiront. Voilà. Et pourtant, aujourd'hui, il y a un livre qui s'appelle Nicolas Christophe et Cheryl Widoun qui sont pris Pulitzer tous les deux, qui avait écrit La moitié du ciel et qui disait qu'il manquait 100 millions de petites filles en Asie. 100 millions de petites filles parce que la plupart du temps, vous savez, en Chine, il y a 25 ou 30 ans, en raison de la politique de l'enfant unique, on abandonnait les petites filles dans la rue parce qu'effectivement, avoir une petite fille était signe de mauvais augure et comme les familles n'avaient droit qu'à un enfant, ils jetaient leur petite fille dans la rue et elles mouraient, 30 000 petites filles mouraient dans les rues de Chine. Et vous savez, en ce moment en Inde, quand une femme attend une fille, on la contraint à l'avortement parce qu'effectivement, il faut avoir un garçon. Et donc, ce qui me choque, c'est que peut-être autrefois, il y avait. On est dans une ville qui a connu de grands professeurs de droit comme Léon Duguy. Je me disais qu'il y a 50 ou 60 ans, vous auriez eu des intellectuels, vous auriez eu des gouvernements qui se seraient élevés, qui auraient été les porte-voix de ces femmes qui sont exécutées des manières les plus barbares. Et dans ce livre, on parlait des Yazidis, parce que c'est de ce massacre dont personne ne dit le nom. Ces femmes sont vendues sur un marché aux esclaves. Si vous allez sur Internet, vous avez même la grille tarifaire.
Oui, vous le plus.
Et donc, elles sont vendues, et vous avez même des images. Des images où ces femmes sont en cage, elles sont converties de force et vendues et violées. Il y a eu un rapport de la représentante du secrétaire général des Nations Unies qui disait qu'une femme qui avait refusé d'être violée a été immolée en pleine rue. Il y a des femmes qui préfèrent s'immoler elles-mêmes plutôt que subir ces violences. Et je sais parce que quand j'ai... Si on n'est pas couché, j'ai entendu Léa Salamé qui me disait « Oui, mais qu'est-ce que vous pensiez quoi ? C'est pas la France. » Et je dis « Mais écoutez, Madame Salamé, vous savez le nombre de femmes qui meurent en France des coups portés par leur conjoint ? C'est une femme tous les 2 jours. Aujourd'hui, l'UNICEF a donné un avertissement à Madame Taubira parce qu'aujourd'hui, chaque jour, 2 enfants meurent des coups portés par leurs parents. » Est-ce que vous savez que les attentats du 7 janvier ont été commandités par Al-Qaïda Péninsule Arabique ? Savez-vous que Merin, qui a tué des enfants dans une école, qui a tué des soldats français, est allé s'entraîner au Pakistan ? Aujourd'hui, on est dans un monde qui est beaucoup plus restreint, plus petit que le monde d'autrefois. C'est-à-dire quand vous avez en fait ces sites internet où vous avez des films de propagande dignes des films hollywoodiens, quand vous voyez que ces hommes sont capables de bloquer TV5 pendant des heures, ce sont des hackers, vous vous dites que c'est une nouvelle guerre qui se dessine et les premières victimes sont les femmes. Et on ne peut pas fermer les yeux sur ça. On ne peut pas. Mais ce qui, moi, me rend optimiste, même si je n'ai pas pour nature d'être optimiste, c'est que je vois des femmes comme la députée d'origine somalienne Hirsh Ali, vous savez, qui avait pour ami Théo Van Gogh, qui a été assassiné aux Pays-Bas, qui avait fait un film qui s'appelait Submission pour dénoncer la barbarie des talibans d'Afghanistan et qui a été tué en pleine rue par un intégriste musulman qui a été décapité, qui a été pris de plusieurs coups de couteau, et qui aujourd'hui, cette femme qui dénonce l'islam radical, personne en Europe lui a donné l'asile. Elle est aujourd'hui aux États-Unis protégée par les autorités américaines. Vous avez Talisman Nasrin qui dénonce en tout cas le régime des Mollahs. victime d'une fatwa. Salman Rushdie, 27 ans après les versets sataniques, vit toujours protégé par le MI5. Aujourd'hui, on est en face d'une guerre d'un ordre nouveau, une guerre qui n'a pas de droit à l'oubli. Et moi, ce qui me surprend beaucoup, c'est que les gens pensent que une fois qu'on a fait une caricature, tout est effacé et qu'on peut passer à autre chose. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Salman Rushdie, 27 ans après, il est toujours protégé. Il est toujours protégé et victime d'une fatwa.
Vous citez beaucoup dans votre livre Stefan Zweig. On sent que vous aimez beaucoup Stefan Zweig.
Oh, qui est tellement exceptionnel. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont lu.
Alors, Stefan Zweig, ce n'est pas simplement des nouvelles absolument fabuleuses, hein, extraordinaires, des biographies tout aussi extraordinaires. C'était un grand biographe.
Vous avez dû lire celle de Montaigne, puisqu'il est de la
Et puis, c'est
région.
Aussi quelqu'un qui a écrit un livre qui s'appelle Le Monde d'hier. Vous citez dans votre livre, page 233, vous dites, Zweig écrit, « Depuis des années, j'explique que nous sommes dans une période pré-insurrectionnelle telle que celle que nous avons connue dans l'entre-deux-guerres, avec la montée des partis populistes de droite comme de gauche. L'Europe n'est plus ce rempart idéalisé contre les fascismes. » En quoi est-ce que, par exemple, la lucidité de Stefan Zweig sur cette époque de l'entre-deux-guerres, de la montée des périls, en quoi vous la faites vôtre cette lecture que Zweig a du malheur qui monte?
Moi, je l'ai écrit déjà dans Ma République Summer il y a 3 ans, où j'avais même dit qu'un jour, on assassinerait Charb. Et j'ai toujours convaincu qu'on était en fait dans une période insurrectionnelle, un peu comme dans l'entre-deux-guerres, où vous savez, il y a une remise en cause des institutions républicaines, c'est février 34, c'est effectivement progressivement, vous voyez, la Première Guerre mondiale a été porteuse d'espoir, parce qu'on a vu des régimes parlementaires rationalisés s'installer dans l'Europe centrale et orientale, et progressivement, liés notamment au scrutin proportionnel, en fait, tous ces grands acquis sont tombés en quelques années. Et moi, je reste quand même relativement frappée de voir que dans toute l'Europe, vous avez une montée des partis d'extrême droite, et on l'a vu au Danemark hier. Vous avez en fait à l'intérieur des partis, des parlements, y compris en Suède, des élus d'extrême droite qui effectivement ont une forme de lucidité, parce que je crois que les partis classiques dits de gouvernement ignorent depuis 30 ans ce qui se passe réellement dans le monde. Et je pense qu'il y a une espèce d'erreur de beaucoup d'intellectuels en France, et ça ne date pas d'hier. Voilà, je ne reviens pas sur la grande division entre Sartre et Aron, hein, parce que bon, moi je veux bien, mais le milieu germano-pratin pendant la guerre et l'occupation, je pense qu'il y a quelque chose à dire, et qui continuait à faire des émissions de radio, je trouve ça détestable, parce que des gens comme René Cassin étaient à Londres. Vous êtes dans une région qui a vu beaucoup de résistants, et notamment il y avait Lidenois de Saint-Marc, qui a fini quand même à 20 ans à Buchenwald, il y avait Yves Guénat, il y avait évidemment l'ancien maire
Chaban-Delmas.
Donc vous êtes une terre de résistance, donc vous savez ce que ça veut dire. Et que moi je reste, quand je vois par exemple comment les intellectuels de gauche ont accueilli l'arrivée des Khmers rouges à Phnom Penh, 2 millions de morts sur 7 millions. Hein. Et toujours, aujourd'hui encore, il y a eu très peu de procès, en fait, pour condamner les tyrans qui ont massacré 2 millions. Je ne sais pas si vous avez vu le documentaire sur le camp S21. Donc, et quand je vois le Monde, le journal du soir, intellectuel et tout, et donc ils ont fait leur mea culpa, mais saluer l'arrivée des Khmers rouges à Phnom Penh. Et le pire dans tout ça, c'est quand Michel Foucault, au moment de la révolution islamique des Mollahs en Iran, fait en fait une série de reportages pour le Courrier de la Sera en disant « c'est formidable, il y a des mouvements de jeunesse en Iran, c'est exceptionnel ». Et quand nous on a donné l'asile à Khomeini, donc je suis très à l'aise, hein, je me suis dit bah, « nous entre Bokassa et Khomeini, on a plutôt tendance un peu à se tromper ». Et Michel Foucault, le grand Michel Foucault, qui avait sa chaire au Collège de France, au moment, malgré des femmes iraniennes qui dénonçaient « mais vous ne rendez pas compte ce qui va être installé en Iran », eh bien, il va là-bas. Il dit non, mais ce n'est pas véritablement un habit religieux. Et il va même accompagner celui qu'il appelait un saint homme sur le tarmac de l'aéroport qui emmenait Khomeini en Iran. Alors je me suis dit, Michel Foucault, il n'est jamais revenu sur cela. Et aujourd'hui, qui pourrait dire aujourd'hui que la République des Mollahs est un progrès pour l'humanité ?
Alors cette cécité des intellectuels français, vous pensez qu'elle se porte en particulier sur la situation des femmes dans le monde. Et vous dites, mais dans votre livre, c'est au traitement des femmes dans le monde qu'on peut mesurer éventuellement le niveau de développement. En France, vous citez un chiffre spectaculaire, vous dites, c'est une docteure qui donne ce chiffre, 70 000 petites filles seraient susceptibles d'avoir un mariage forcé. C'est absolument énorme.
Moi, je vais vous dire, je veux terminer avec une dernière intellectuelle, Elisabeth Badinter. Alors, en plus, je le dis d'autant plus qu'on est proche intellectuellement, mais elle, c'est une femme de gauche, moi, c'est une femme de droite, et je n'ai jamais renié mes idées de droite. Voilà, je suis sortie de la vie politique, mais, et en partie parce que je suis fille de harkis, et que moi, je reste. Je n'ai pas dit que De Gaulle s'était bien comporté, hein, je n'ai pas dit ça. Non, mais
vous ne dites pas dans le livre, vous dites le contraire.
Oui, je dis dans le compte, ça fait le contraire, mais. Je garde en mémoire quand même quand des gens se faisaient massacrer en Algérie après les accords d'Évian, les propos de Gaston Defferre quand il disait « ils ont qu'à rester là-bas alors que des gens étaient égorgés, émasculés, ébouillantés » et qu'en gros, c'est 150 000 à 200 000 personnes qui ont été tuées après la guerre d'Algérie, après les accords d'Évian. Donc bon. Avec Elisabeth Badinter, il faut lire un livre qui s'appelle « Fausse route » qui est aujourd'hui en poche. Où elle explique comment la gauche a abandonné le principe de laïcité et elle explique à propos des premières affaires de voile à Creil, où elle expliquait, mais vous ne vous rendez pas compte que porter un voile n'est pas un signe d'émancipation pour les femmes. Porter un voile, c'est effectivement faire porter la responsabilité aux femmes du fait que ces pauvres hommes, je parle à vous messieurs, vous seriez le sexe faible, incapable de retenir vos pulsions, et ce serait la faute des femmes si effectivement vous seriez ces êtres agressifs, et donc il faut couvrir le corps des femmes le plus possible pour que vous ne soyez pas tentés. C'est en réalité l'institutionnalisation d'un séparatisme entre les femmes et les hommes. Elisabeth Badinter, qui en 89, dénonce cette abdication parce que qu'est-ce que fait à l'époque le gouvernement de l'époque où Lionel Jospin était ministre de l'éducation nationale et son directeur de cabinet Olivier Schramek demande au Conseil d'État un avis parce que quand les politiques démissionnent, ils demandent au Conseil d'État un avis, comme ça c'est leur avis de dire je prends mes responsabilités, je me cache derrière un avis. Évidemment l'avis a été mi-figue mi-raisin. Et Elisabeth Badinter a continué son combat en disant « On ne peut pas accepter dans les établissements scolaires le voile, le signe de soumission de la femme. » Et vous savez qu'à l'époque, elle, cette femme de gauche, elle qui est quand même l'épouse de Robert Badinter, celui qui abolit la peine de mort, elle a été accusée à l'époque de faire le jeu du Front National. Et elle le raconte dans son livre. Elle le raconte. Et aujourd'hui encore, elle est ostracisée dans sa famille politique parce qu'elle dénonce le fait que la gauche a abandonné le principe de laïcité. Ce principe de laïcité, pourquoi je le défends corps et âme ? Pourquoi je le défends avec un tel acharnement ? Parce que pour nous, les femmes d'origine arabe, nous, les femmes de culture arabo-musulmane, c'est le seul moyen d'être émancipées et d'être considérées comme l'égale de l'homme. Quand vous êtes dans une religion, je vous invite à lire les bouquins d'Abdennour Dinar, je vais y arriver, Dinar, qui montre l'institutionnalisation de l'inégalité entre les femmes et les hommes. Je vous donne un exemple très simple. Dans l'islam, en matière de droit de succession, eh bien, un homme, c'est une part, une femme, une demi-part. Un homme peut être polygame, pas une femme. Un homme peut répudier sa femme, pas une femme. Une femme n'a pas l'autorité parentale, l'homme a l'autorité parentale. Donc évidemment, comme il n'y a pas de séparation entre le temporel et le spirituel, qu'on est dans le cadre de l'Oumma, comment voulez-vous, si on ne sépare pas ce qu'avait conceptualisé un saint Thomas d'Aquin, à savoir entre le temporel et le spirituel, vous savez, il faut rendre à César ce qui est à César et Dieu ce qui est à Dieu, ce que la France a fait en réalité, pratiquement depuis la Révolution française, en reprenant l'état civil. Bon, alors après, il y a eu jusqu'au Concordat et la loi de 1905. Mais aujourd'hui, on ne peut pas accepter sur le territoire national français que des gens, au nom d'une religion, veuillent remettre le sacro-saint principe de laïcité pour, en tout cas, instaurer un principe qui, pour moi, ou un système qui est contraire à ce qui, pour moi, n'est non négociable, sans aucun compromis, à savoir l'égalité entre les femmes et les hommes. Et on n'est pas à l'abri de cela. Et je prends l'exemple dans le livre du Royaume-Uni. Évidemment, c'est deux modèles d'intégration totalement différentes, parce que la France a un modèle d'assimilation, et vous savez, le modèle d'intégration britannique, c'est communautariste.
Avec une religion d'État.
Avec une religion d'État.
Puisque la reine d'Angleterre est chef de l'église anglicane.
Anglicane. Et en plus, le blasphème existe là-bas. Mais la seule chose, c'est qu'ils ont produit les mêmes... C'est-à-dire que les deux n'ont pas marché. C'est-à-dire qu'en fait, quand on voit les résultats, c'est que la France, la Belgique et le Royaume-Uni sont les pays qui envoient le plus de djihadistes en Irak et en Syrie. Et souvent, ce n'est pas nécessairement des étudiants ou des jeunes qui sont en situation de précarité sociale, parce que, par exemple, Jadid John, qui est notamment à l'origine de la décapitation du journaliste américain récemment, était en fait un brillant étudiant de l'Université d'informatique de Londres. Et quand ses professeurs ont été interviewés, ils disaient « Ah, mais c'est un garçon très gentil, très très calme, sympathique, très doux. » En fait, il a décapité une trentaine de personnes là-bas. Et tout ça pour dire qu'au Royaume-Uni, il y a récemment, en fait, ce qui est l'équivalent de l'Ordre des avocats britanniques, a envoyé une circulaire à tous les cabinets d'avocats en disant que désormais, si les gens les souhaitent, pouvaient rédiger leur testament en respect du droit de la charia.
Alors ça, c'est plutôt heurté encore pour l'instant à la Chambre des communes.
Non. Ce qui est heurté à la Chambre des communes, c'est qu'en fait, vous savez, dans le modèle éducatif britannique, on n'est pas comme en France dans un système qui demeure très jacobin. Et en fait, les écoles sont totalement, y compris sur la question du recrutement des enseignants, aux mains des communes. Le problème, c'est que comme sociologiquement, les gens se regroupent par communauté quand vous êtes issu d'immigration. Et moi, je l'ai vu à l'accès. Souvent, les gens qui sont d'origine malienne veulent vivre à côté de leurs voisins maliens. Et c'est normal, parce que même quand les Français sont à l'étranger, vivent en communauté entre expats.
Et vous dites dans le livre, d'ailleurs, que vous êtes totalement contre ça. Vous dites la communauté...
est aliénante. Moi, je fuis ça, en fait. Je suis une vraie sauvage. Ouais. Je ne fais partie d'aucune association. Et je pense que... c'est normal, parce que moi-même je suis iconoclaste et que je suis entre deux choses et que je refuse qu'on me mette dans une case. Et récemment, et c'était dans Le Monde, hein, c'était pas dans Valeurs Actuelles, parce que sinon on m'aurait dit dans Valeurs Actuelles, c'était pas très objectif. Et en fait, il y a eu 6 écoles à Birmingham, qui est une des grandes villes au Royaume-Uni où il y a une très forte communauté pakistanaise. Vous avez des écoles qui ont été aux mains mises en fait des islamistes, et vous avez fin de la mixité. Donc désormais, dans les classes, les garçons, les filles séparés. Seules les femmes pouvaient enseigner aux femmes et les hommes aux hommes, aux garçons. Ensuite, les programmes scolaires ont été un peu épurés pour éviter d'avoir sur certaines matières en biologie ou bien en histoire, on évite les passages sur la théorie de l'évolution, les programmes d'éducation sexuelle, etc. Appel à la prière dans les cours d'école avec le mégaphone et surtout voyage scolaire à la Mecque. Évidemment, ça fait scandale, à tel point que David Cameron, le Premier ministre du Royaume-Uni, est obligé de s'expliquer devant la Chambre des communes en disant qu'il y avait des valeurs fondamentales du Royaume et qui devaient être respectées, et que c'était un engagement de son gouvernement, en tout cas de faire respecter, en tout cas, le socle commun. Il faut quand même que dans cette humanité, on soit d'accord sur un minimum de droits, le droit à l'intégrité du corps de la femme et le principe d'égalité entre les femmes et les hommes. Ça, c'est pas négociable, et aucune religion, aucune idéologie ne peut en tout cas se prévaloir de considérer son alter ego comme un inférieur. C'est pas acceptable, c'est fini ça. Ça, c'était le Moyen-Âge.
Pour bien comprendre, vous êtes donc juriste, il y a deux options. Il y a ce qu'on appelle la laïcité de l'État, c'est plutôt notre système actuel avec la loi de 1905, du 9 décembre 1905 sur la séparation entre les églises et l'État, avec des dérogations d'ailleurs qu'on trouve très vite dans l'article 2 de la loi. Vous êtes plutôt favorable à une laïcisation ou une laïcité dans l'espace public, c'est-à-dire au-delà de la laïcité de l'État.
Moi, je pense qu'il y a un espace où il doit y avoir des écoles qui sont laïques, des espaces, des crèches laïques, et en même temps, il doit y avoir des espaces confessionnels. Cela ne me dérange pas.
L'espace public, je veux dire, pardon, ça peut être la rue, ça peut être...
Je ne suis même plus dans le combat sur le voile. Vous ne vous rendez pas compte de la situation dans laquelle on est. C'est qu'aujourd'hui... Par exemple, en Algérie, il y a une jeune fille qui a été exclue de l'école, de l'université, parce qu'elle avait une jupe trop courte. En France, on nous fait passer pour des grands liberticides parce qu'on réglemente les tenues scolaires à l'entrée. Aujourd'hui, vous savez, la décennie noire en Algérie, l'époque où, effectivement, après le report des élections législatives qui a vu la victoire du fils, il y a eu 300 000 morts suite aux attentats du GIA. 300 000 morts. Donc, c'est pas rien. Moi, je vais vous dire quelque chose. C'est que le combat sur les tenues vestimentaires, c'est presque un combat d'arrière-garde, parce qu'aujourd'hui, vous êtes face à des gamins qui sont prêts demain à prendre une ceinture d'explosifs et se faire sauter en France. Ils le font en Irak. Vous avez vu ce reportage sur BFM, vous avez des gamins qui prennent des ceintures d'explosifs qui vont se faire sauter. Donc évidemment, moi ça me choque de voir, moi je vous dis, je suis la première génération née en Europe. Ma fille est née en Asie, j'ai adopté une petite fille laotienne, j'ai jamais vu de ma vie ma grand-mère porter, comme vous savez, diams là, avec une espèce de machin qui première des ventes en France et qui explique, moi, machin, je sais pas quoi, l'islam, blablabla. Enfin, c'est pas l'islam que mes parents ont connu. On va, je dis, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Quand je vois éventuellement à Paris des femmes là tout en... Je dis, mais nous, on n'a pas connu ça. Mes parents en Algérie n'ont pas connu ça. Ça vient bien d'une influence extérieure dont on sait pertinemment qu'elle est en partie financée par certaines grandes familles saoudiennes ou qataries et qui viennent du wahhabisme, qui est une des écoles d'interprétation radicale de l'islam, qui n'a strictement rien à voir avec ce que pouvait incarner un Abdelkader qui, au XIXe siècle, va sauver des milliers de chrétiens du massacre à Damas et qui a été initié à une loge franc-maçonnique et qui va être décoré Grand Croix de la Légion d'honneur par Louis-Napoléon Bonaparte. Et Abdelkader, l'émir Abdelkader, était un saint homme. Il a vécu l'exil en France, il a vécu la trahison de la Deuxième République, et pourtant, il n'a pas massacré des gens. Au contraire, lui qui voulait se retirer, se consacrer au texte sacré, a repris les armes pour sauver les chrétiens de Damas. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait aux chrétiens? On les tue. Alors, des fois, on fait des pétitions. C'est sympa. Mais lui, ce qu'il a fait, il a pris les armes. C'est-à-dire que vous avez un musulman qui a été pourtant battu par la France parce qu'il a rendu les armes. Vous savez, c'était ce jeune garçon très frêle qui s'est opposé en fait à la colonisation de la France en Algérie pendant 30 ans, qui rend les armes, qui a été exilé à Amboise. Peut-être que certains d'entre vous sont allés visiter la demeure où il a été. Et ensuite, il part et il sauve les chrétiens de Damas. Donc, quand on parle d'islam, moi, j'ai envie de penser à l'émir Abdelkader. Et je n'ai pas envie de penser ni à Ben Laden, ni au Mollah Omar, ni à Mokhtar, je ne sais pas trop quoi. Et ça me dégoûte, voilà. Et ça me dégoûte de voir à quel point on trouve encore des excuses à des jeunes parce qu'on me dit qu'ils manquent de repères, qui sont ostracisés. Qu'est-ce que je devrais dire de mes parents qui ont vu leur famille massacrée en Algérie par le FLN, qui n'ont pas été accueillis à bras ouverts par la France, qui ont été parfois victimes de racisme en France? Ils n'ont jamais été comme ça. Ils n'ont jamais fait ça. Et je viens de perdre ma mère. Et ma mère, et parce que même dans la mort, les femmes et les hommes sont séparés dans l'islam, maman, parce qu'elle croyait en un Dieu unique, eh ben, on a fait une bénédiction dans l'église et ça ne nous a pas gênés ou de penser que c'était un péché mortel que d'avoir une bénédiction qui a été faite par le père de la Morandais, qui a été en Algérie, qui a beaucoup aidé les harkis. Il a eu cette espèce de courage exceptionnel parce qu'il a même fait lire deux textes du Coran dans une église, l'église Saint-Étienne de Déol. Il y avait le drapeau français sur le cercueil de maman et à la fin de la bénédiction, c'est la Marseillaise qui a retenti. Voilà, et c'est ça ce que je suis, et c'est ça ce que j'essaye de défendre. Voilà. Merci beaucoup.
Vous l'avez fait, madame, ce soir. Merci beaucoup.